Ça me fait très plaisir de vous voir tous. On est content de pouvoir vivre ce week-end. On aura une présentation un peu plus détaillée de notre cher ami et cher frère Thierry qui vient partager ici les enseignements pour nous ce week-end sur la Missio Dei que Antoine a très bien introduit. Je vous invite à prendre votre Bible et à voir les dernières pages puisqu'on va être ce matin dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4 et 5 pour démarrer ce thème de la Missio Dei, la mission de Dieu et nous. Ça va claquer. J'espère que vous êtes prêts. Apocalypse chapitre 4, c'est à la page 812 de cette Bible blanche. Et je démarre tout de suite. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors: Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme. Et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donne gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait trouvé été digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit: Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vient prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. » Je regardais. Et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades, de myriades et des milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres vivants qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Et les quatre vivants répondaient « Amen !» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Imaginez, vous avez la chance d'entrer dans une cabine, une sorte de photomaton, et vous avez la possibilité de vous asseoir devant un écran. Sur cet écran défilent tous les moments de votre existence, votre naissance, votre enfance, votre adolescence, votre vie, votre vieillesse, jusqu'à ce moment du clap de fin de votre existence. Comment vous sentiriez-vous à la sortie de ce photomaton, de cette cabine? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous aviez la possibilité de voir toute votre existence sur cet écran? Quelle décision changeriez-vous? Quel choix feriez-vous? Je peux imaginer que beaucoup de choses changeraient si vous saviez. Je peux imaginer que beaucoup de choix seraient intensifiés, soit complètement modifiés, altérés suite à cette vision. Eh bien, c'est ce que nous avions dans cette lecture et c'est ce qu'espère réaliser Jean, l'auteur des lignes que nous avons lues avec nous ce matin. Regardez, Jean, il est appelé à passer à travers une porte et à monter versets 1 et 2. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Et aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Jean voit une porte et une voix l'appelle pour monter, pour observer, pour regarder, pour voir une chose. Fin du verset 2. « Et voici, il y avait un trône dans le ciel. » Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors pour nous aider ce matin, il faut nous rendre compte d'une chose, que nous sommes dans un genre littéraire que nous avons peu côtoyé encore ici à l'église Grenoble-Est, le genre apocalyptique. Apocalypse signifie tout simplement révélation, dévoilement. Dans son Apocalypse, l'apôtre Jean lève le voile sur les réalités suprêmes qui doivent impacter la vie des premiers chrétiens qui reçoivent cette lettre et tous les chrétiens qui se situent entre la résurrection de Jésus-Christ et son ascension et son retour final pour qu'ils vivent, ces chrétiens, des vies courageuses, audacieuses, pleines de persévérance dans la souffrance pour Dieu. Et comment Jean fait-il cela? Eh bien, il procède par petites touches de peinture. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de peinture. Mais là, en fait, ce que nous avons, c'est un style impressionniste. Il utilise des images saisissantes pour qu'elles s'impriment sur notre rétine. Jean est plus cet artiste impressionniste que réaliste. En fait, nous ne sommes pas censés chercher des significations dans tous les détails, mais plutôt de nous laisser saisir, impacter, par émouvoir par les images qu'il dépeint sous nos yeux. Alors derrière cette porte, qu'est-ce qu'on voit? On voit un lever de voile sur la réalité ultime. Qu'est-ce qui est au cœur de la réalité? Et ce qui nous avons au cœur de la réalité, c'est un trône. Un trône autour duquel se déroule un concert d'adoration, un bruit assourdissant de chants, de louanges et de gloire pour un occupant mystérieux. Un occupant mystérieux. Alors, on est en week-end sur le thème de la mission. Et plutôt que de sortir des cartes, lire des rapports, établir des projets, on a souhaité commencer avec une vision, une vue panoramique. Une vue panoramique, non pas de notre petite existence, mais une vue panoramique de la réalité suprême. Pourquoi? Parce que, et c'est peut-être contre-intuitif dans un premier temps, mais il faut qu'on mette les choses en ordre. Pourquoi on parle de réalité suprême? Pourquoi un texte sur l'adoration dans un week-end sur la mission? Parce que, et pour reprendre les mots d'un auteur, le but suprême de l'Église, le but suprême des chrétiens n'est pas la mission. Notre but en tant que croyants n'est pas la mission, mais l'adoration. La mission existe seulement parce que l'adoration totale, globale, méritée de Dieu n'existe pas. Et donc, si on parle de mission à l'église Grenoble-Est ce week-end, ce n'est pas pour la mission in fine, mais c'est pour générer une puissante, confiante et solide adoration de Dieu qui va nourrir la mission. Voilà pourquoi on commence avec ce texte. Et voilà pourquoi j'emploie déjà plusieurs fois le mot « mission » sans l'avoir vraiment défini depuis tout à l'heure. Et Thierry va nous en dire plus ce week-end, qui va même parler de commission à un moment. Mais c'est quoi ce mot mission d'abord dans la foi chrétienne? Eh bien, la mission, c'est la tâche confiée à l'Église, au peuple de Dieu, par Dieu, à accomplir dans le monde. La mission est la tâche confiée par Dieu, au peuple de Dieu, à accomplir dans le monde. Et quel est le contenu, en fait, de cette mission? Ben, cette mission, c'est la recherche active de l'adoration de Dieu en annonçant l'Évangile, en faisant des disciples, tout en aimant notre prochain partout dans le monde. Alors, je la répète. Quelle est cette mission qui nous est confiée? Cette mission est la recherche active de l'adoration de Dieu en annonçant l'Évangile, en faisant des disciples tout en aimant notre prochain partout dans le monde. Voilà quelle est la mission. Et l'adoration est en fait le but de Dieu de toute éternité. Dieu veut que nous célébrions sa gloire. C'est le but de ce texte et c'est le but même de toute la Bible. Dieu veut conduire des hommes et des femmes à l'adoration de sa personne. Quelle est l'origine de cette mission qui est confiée par Dieu à son peuple? Eh bien, elle naît d'un décalage. Si vous regardez les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, et si vous comparez avec le monde des contemporains qui est décrit en chapitres 2 et 3 de ce même Apocalypse, ou même notre monde maintenant, c'est inévitable, vous sentirez un décalage. Un décalage entre ce que Dieu veut, l'adoration de sa personne pour les siècles des siècles et un monde qui ne le connaît pas, qui ne l'adore pas, voire qui est complètement indifférent à sa personne. La mission trouve son origine dans ce décalage entre cette vision glorieuse et notre présente réalité. C'est parce que Dieu n'est pas totalement adoré que la mission existe. Et tant que cette vision des chapitres 4 et 5 n'est pas totalement accomplie, alors il y a un besoin de mission. Bon, j'avais l'intention au début, de juste qu'on puisse parcourir ce texte et vous faire petit à petit découvrir l'idée forte, mais je me suis dit, j'ai déjà vendu la mèche. Donc, je veux juste que vous vérifiez avec moi qu'il y a une répétition qui est flagrante dans ce texte qui nous invite à voir l'intention de l'auteur. Chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la louange. Chapitre 5, verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, disent, à celui qui est assis sur le trône soit la louange. La seule chose que je voudrais vous faire remarquer ici, c'est qu'en fait, le texte, il est construit de telle sorte qu'en fait, on voit des cercles concentriques qui vont du trône, la première moment de la vision de Jean, et qui font remonter vers nos oreilles un écho de plus en plus fort. Digne, digne, digne. Voilà quelle est l'intention de Jean. Que nous puissions nous associer à ce concert de louanges, d'adoration, c'est très clair. Il veut nous conduire à l'adoration. Et cette vision qu'on a vue, qui veut nous conduire à l'adoration, elle est en deux parties. On a d'abord le règne suprême, chapitre 4, et ensuite l'histoire suprême, chapitre 5. On va voir si Jean, il arrive ce matin à nous prendre, à nous saisir et à nous amener vers là où il veut, à l'adoration. Observons le règne suprême. Jean, il aimerait qu'en fait, on voit deux aspects de ce règne suprême. D'abord la majesté, versets 1 à 7 du chapitre 4, et puis ensuite la puissance, versets 8 à 11. Alors c'est répété 14 fois dans ce texte, il y a un trône, et il est clair que celui qui est assis sur le trône ici, c'est Dieu, le Créateur, celui qui tient toutes choses selon sa volonté. Alors même si pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations sur qui il est, sur son apparence, observez avec moi la majesté qu'il a. Observez l'éclat et la préciosité de son apparence. Il est comme de la jaspe, de la sardoine, de l'émeraude. Un arc-en-ciel est autour de lui. Il est entouré de 24 trônes qui représentent, me semble-t-il, tous les membres du peuple, de son peuple. Ils sont habillés de vêtements blancs qui représentent la pureté, l'éclat sans tache et sur leur tête. Ils portent une couronne qui souligne la royauté. On dirait comme si on avait le déroulé du tapis rouge au festival de Cannes avec des cordons de sécurité et des personnes en costard comme James Bond, magnifiques, qui protègent la star. C'est pour vous dire, si ces choses-là sont belles, à quel point la star est encore plus belle. Écoutez aussi le bruit assourdissant qui entoure, des éclairs, des voix, des tonnerres, réminiscence de Exode 19, où Dieu apparut pour la première fois sur le mont Sinaï à son peuple. Et puis il y a ces sept lampes qui brûlent, ces sept esprits de Dieu qui sont envoyés partout sur la terre, qui suggèrent en fait la présence parfaite de Dieu. Une présence parfaite, omnisciente. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Le 7 étant dans la tradition juive le chiffre qui représente la perfection, la totalité. Après encore, il y a cette mer de cristal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire du bateau. Et on porte tous des lunettes de soleil sur un bateau à cause des éclats de lumière du soleil qui sont renvoyés vers nos yeux. Ça brille, ça pétille, ça claque. Et puis regardez encore ces quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière, qui suggèrent en fait ici une capacité surnaturelle de voir mieux que Google, mieux que Big Brother, mieux que les caméras de sécurité de Saint-Martin-d'Hères et de Meylan. Ces anges rappellent la vision en fait du prophète Ézéchiel en son chapitre 1, avec ses représentations, le lion, le taureau, l'homme et l'aigle qui représentent en fait la noblesse, la force, la sagesse et la vitesse. Le lion comme emblème de Peugeot. L'aigle, le bœuf, pardon, le taureau comme le représentant des Chicago Bulls. L'homme qui représente l'humanisme des Lumières. L'aigle comme l'emblème national des États-Unis. À votre avis, je vous pose la question, pourquoi aucun sport mécanique, une équipe de basket ou de foot, aucune nation ne choisit un cochon ou un hamster ou un ver de terre pour représenter son équipe? Parce que ça pue! Il faut que ça fasse peur, il faut que ça en jette, il faut que ça impressionne. Et c'est exactement le but. On est impressionné. Alors je vous demande, quelle est l'impression que vous avez maintenant en regardant ce trône? Est-ce que vous voyez la majesté? Eh bien, si on a vu la majesté du règne de celui qui est assis sur le trône, voici maintenant sa puissance. Parce qu'il n'y a pas que de la vidéo, en fait. Il y a aussi du son. Alors, on a déjà vu les bruits des éclairs et tout ça, mais regardez ce que disent les gens nuit et jour au milieu du verset 8 de ce chapitre 4. Attention, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur !» C'est quoi ce patois religieux ?« Saint, Saint, Saint est le Seigneur !» Ah ben, on pourrait le traduire ainsi. « Autre !» Autre, autre, le Seigneur est tout autre. Bon, ça ne nous aide pas tellement, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette idée que Dieu est saint, que Dieu est autre, qu'il est tout autre? Ben, ça veut dire qu'il est au-delà de nous. Tellement transcendant, tellement au-delà de notre compréhension, de ce qu'on peut s'en faire dans notre idée. Il n'est pas une idéalisation de l'être humain. Il n'est pas une projection d'un meilleur nous. Non, il est saint, c'est-à-dire il est à part, transcendant, inaccessible, incompréhensible. C'est pour ça qu'on ne le voit même pas presque. Tellement il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans nos pauvres petites cervelles. Et entendez ensuite le chant des louanges qui exalte la puissance, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pour quelle raison? Pas parce que tu réponds à mes prières. Pas parce que, en fait, je suis content d'être là ce week-end EGE. Quelle raison est donnée à autant de dévotion, à autant de louanges, à autant d'adoration? Fin du verset 11, tu es digne car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Qui est la personne la plus puissante de l'univers? Facebook? Jeff Bezos? Xi Jinping? Joe Biden? Non. Celui qui est au cœur de la réalité ultime, celui qui crée et dirige souverainement toutes choses. Rendons-nous compte. Pas une poussière de cet univers a été placée sans son accord. Il a créé le soleil qui nous réchauffe. Il a placé les étoiles qui nous éclairent la nuit. Il nous a donné l'eau pour nous réhydrater, la nourriture pour la joie et pour reprendre des forces. Celui qui place les dirigeants et les vire selon son bon plaisir. Ces dirigeants qui n'ont pas plus de pouvoir que ce que Dieu leur accorde, c'est lui qui l'a fait. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Qui crée? Qui dirige? Qui règne? Celui qui est assis sur le trône. Tout lui, l'univers, lui appartient. Vous n'êtes pas à Champfleury ici. Vous n'êtes pas à Champfleury. Vous êtes chez Dieu. Il vous a donné un corps pour que vous puissiez expérimenter la réalité. On est en train de marcher sur la création qu'il a mise en place. Et si on peut respirer depuis 7 heures ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous êtes réveillé, c'est parce qu'il le veut bien. Tout ça est un cadeau de sa part. Voyez la puissance? Où est-ce que ça soit un gorille de 1 tonne 5? Où il veut. Où il veut. Dieu est là-haut dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Qui est son conseiller? Personne. Ésaïe 40, 13. Vers qui Dieu s'est-il rendu pour demander un devis, pour délivrer une prestation sur cette terre? Personne. Job 41, verset 3. Est-ce qu'on voit maintenant qui est la personne la plus puissante de l'univers? Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, verset 9, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône, devant tant de beauté, devant tant de majesté, devant tant de puissance. La seule chose qui semble raisonnable à toute la création, à toutes ces créatures, c'est de délibérément adorer celui qui est assis sur le trône. Toute autre réaction serait totalement inappropriée. Si je vous pose la question, quelle est la personne pour vous la plus puissante dans l'univers? Si je vous pose la question, c'est qu'on est tous tentés à un moment, voire surtout quand on pense à la mission, de considérer Dieu comme ce bébé qui porte des couches culottes, qui est très très mignon, mais il n'est pas très débrouillard. Comme le dit une bande dessinée, la vision qu'on se fait parfois de Dieu, c'est Dieu n'a pas réponse à tout, mais il sait à qui s'adresser. Et quand il s'agit de la mission, à qui il s'adresse? À nous. Mais regardez comment Tozer, un auteur, corrige notre vision avec ces mots. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin d'aide. De façon générale, nous représentons Dieu comme un père toujours occupé, impatient, légèrement contrarié, s'agitant dans tous les sens afin de trouver de l'aide pour mener à bien son plan bienveillant qui est d'apporter au monde la paix et le salut. Trop souvent, les appels à la mission, les appels missionnaires, s'appuient sur cette frustration imaginaire que l'on prête au Dieu puissant. Oh Dieu, il a besoin de mon aide. Je vais lui rendre un service. Je vais m'inscrire à cette mission. Non. Non, dit Jean. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu est parfaitement au contrôle. Dieu est absolument souverain sur toute l'histoire du monde. Il n'a pas besoin de notre aide. On pourrait tous finir notre vie aujourd'hui. Dieu parviendrait quand même à rendre son nom glorieux dans tout le monde. Alors pourquoi on fait un week-end sur la mission? Eh bien, on revient à notre mot-clé, l'adoration. Si Dieu désire nous impliquer dans la mission, ce n'est pas qu'il est ce bébé, pas débrouillard, mais c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut partager avec nous la joie de faire connaître autour de nous le salut. S'impliquer dans la mission n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu, mais c'est un cadeau, un privilège qu'il nous accorde d'être à ses côtés. Comme un enfant qui se trouverait aux côtés de son papa pour faire des travaux. Ce n'est pas lui qui va prendre le marteau. Ce n'est pas lui qui va enfoncer les clous, utiliser le marteau piqueur, mais il va être à côté de son papa pour le voir et profiter, avoir du plaisir à être à ses côtés dans sa mission. Et donc, dans la suite de cette vision passionnante, saisissante, Jean attire maintenant notre attention en fait, sur un livre et sur un occupant mystérieux du trône, chapitre 5. Il y a d'abord ce livre qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur, qui est fermé grâce à sept sceaux. Un livre qui suscite cette question. Qui est digne? Verset 2. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Regardez Jean, sa réaction est surprenante. Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il se met à pleurer. Il pleure. Ben pourquoi il pleure? Regardez verset 4. Parce que nul, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Il y a personne d'assez solide, d'assez vaillant, d'assez courageux pour prendre ce livre, d'assez droit pour prendre ce livre et aller oser le prendre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, qui effraye tout le monde, qui est glorieux. Personne, personne, chapitre 4, ne peut prétendre être comme lui, le créateur du ciel et de la terre, le dirigeant suprême. Maintenant, personne n'est assez digne pour accomplir son plan et prendre ce livre et exécuter l'inscription qui est inscrite dans le livre pour répondre à ses demandes. Et du coup, on s'interroge tous. Peut-être d'un moment déjà, depuis la première lecture de notre texte au chapitre 5, c'est la question que je me suis posée toute cette semaine. C'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre avec ses sept sceaux? C'est quoi ce livre que personne ne peut ouvrir? Bien, la réponse, elle n'est pas très compliquée, mais en fait, il faut lire la suite de l'Apocalypse pour comprendre que lorsque ce livre est ouvert, quand les sceaux sont brisés, donc les sceaux du livre sont brisés pour pouvoir être ouverts, pour pouvoir être lus, en fait, cela déclenche des événements en cascade. On a un tapis rouge qui se déroule, une pierre qui ricoche sur l'eau jusqu'à ce que ça fasse plouf. On a un flot interrompu du chapitre 6 jusqu'au chapitre 22, de ce moment où la personne ouvre les sceaux. En fait, on a un déroulement, comme un feu d'artifice, avec un bouquet final au chapitre 22 de l'Apocalypse, où se conclut. Qui se conclut cet apocalypse avec le jugement dernier, avec le salut des justes et le triomphe éternel de celui qui est assis sur le trône. Un vrai feu d'artifice qui se conclut avec un bouquet final. Et en fait, ce livre scellé déclenche des événements dans l'histoire de l'humanité qui vont s'enchaîner et conduire à cette issue glorieuse de Dieu, qui vient et descend vivre au milieu de son peuple, qui vient le libérer, qui vient mettre un terme à la persécution, qui vient mettre un terme à notre souffrance physique, qui vient mettre un terme aux abus physiques et sexuels, qui vient mettre un terme à la mort, à la guerre et aux catastrophes qui nous accablent tous. Voyez la question qui est digne d'ouvrir le livre? C'est en fait, qui peut mettre un terme à tout ça? Qui peut nous sortir de cette violence, de ces mensonges, de ces abus? De cette persécution? Ça, c'est la question, verset 5. Jean pleure parce que personne ne peut ouvrir le livre. Et donc, s'il n'y a personne pour ouvrir le livre, il n'y a plus personne pour nous sortir de notre vie de misère. Il n'y a plus personne pour nous amener aux joies, à la joie du salut, au triomphe de Dieu qui attend sa nouvelle création avec un ardent désir. Personne pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous permettre de nous accomplir vraiment, alors qu'on ressent énormément de frustration dans cette existence. Personne pour nous conduire à cet apogée existentiel dans la joie de celui qui est assis sur le trône. Voyez la tension? Il n'y a personne. Personne. Sauf quelqu'un, cet occupant mystérieux, verset 5. Alors un des anciens me dit, Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Quelle bonne nouvelle! Mais c'est un peu codé là. Le lion de Juda, celui dont il dit que le sceptre ne s'éloignera pas de lui, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Genèse chapitre 49, verset 10. Celui qui est le rejeton dans Ésaïe, dont il est dit qu'il sera dressé comme un étendard pour les peuples et qu'il sera recherché par les nations et que son lieu de résidence sera glorieuse. Ésaïe 11. Celui-ci peut ouvrir le sceau. Mais quelle bonne nouvelle! On est en train de nous parler ici d'un roi, de ce que la Bible va appeler aussi un Messie. Et là, on a envie de dire, Jean, présente-le-nous, que nous fassions sa connaissance. Qui est cet occupant mystérieux? En fait, c'est un agneau. Quoi? Verset 6. Puis je vis au milieu du trône et des quatre vivants, au milieu des anciens, un agneau, debout comme offert en sacrifice. Attends, quoi? Tu me parlais d'un lion? Tu me parlais d'un messie, d'un roi? Et là, tu me parles d'un mouton? C'est qui? Alors regardez que cet agneau, il était un peu spécial. Il a sept cornes qui représentent ici l'autorité parfaite et qui sont et sept qui sont en fait sept esprits qui sont en fait les caméras de surveillance de l'univers. Donc c'était un lion, un messie, un roi, et puis c'est un agneau. Et puis on se rend compte en fait qu'il partage les mêmes attributs de la divinité. Il est adoré, verset 8, et il reçoit le même type, exactement le même type d'adoration que celui qui est assis sur le trône. Il est lion, agneau, on lui reconnaît des attributs divins, il est adoré comme Dieu. Un portrait se dessine, une identité se révèle. Mais c'est lorsque l'agneau accomplit quelque chose, quand on voit ce qu'il accomplit, que l'image devient alors très nette. Regardez encore l'adoration qui est réservée à cet agneau qui se saisit du livre scellé. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce que vous voyez qui est cette personne? Un lion, un agneau qui ôte le péché. On a chanté le chant tout à l'heure. Emmanuel, Dieu avec nous. Un rédempteur, celui qui rachète des gens pour Dieu par son sang. Un peuple nombreux qui est invité à régner avec lui. Le juge universel, c'est qui? C'est comme dans toute bonne question d'école du dimanche, la réponse est toujours Jésus. C'est Jésus-Christ. Jésus le Christ. Tous les hommes et toutes les femmes subissent le règne du mal, le pouvoir du péché et de la mort. Un homme les en délivre. L'homme-Dieu, Jésus-Christ, qui a donné sa vie en rançon pour les arracher de cette vie de misère et les transporter dans son royaume éternel, où il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni pleurs, et où il viendra lui-même sécher les larmes de ceux et celles qui ont pleuré dans cette existence. Son sacrifice à la croix a inauguré cette période de l'histoire durant laquelle tous les événements qui s'enchaînent maintenant jusqu'à son retour mènent à ce magnifique bouquet final dans la nouvelle création. Ça, c'est l'histoire suprême. La seule histoire qui, à la fin, va compter. Jésus-Christ qui a vaincu par sa mort sur la croix le péché, le mal, la mort. C'est pourquoi il est digne d'ouvrir le livre. Il est digne d'aller le prendre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il est digne de notre adoration éternelle. J'en termine. Il est inutile de parler de mission sans parler de Dieu, sans parler de l'adoration de Dieu. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, mais l'adoration. La mission existe seulement parce que l'adoration totale, globale et méritée de Dieu n'existe pas totalement pour l'instant. Mais lorsque cette période d'histoire sera finie et que cette Église multiethnique, polyglotte et internationale sera prosternée devant le trône, alors ce sera le clap de fin. Et il n'y aura plus de mission. L'adoration, c'est ce qui motive, est ce qui est l'objectif de la mission. Alors je me demande, pour vous, pour moi, en sortant de cette vision de l'Apocalypse de Jean, quel choix de vie actuelle vont être soit intensifiés, c'est-à-dire que vous allez continuer à persévérer, soit vont être complètement altérés ou modifiés parce qu'on a mieux réalisé encore ce matin, grâce à Jean, quel est le règne suprême et quelle est l'histoire suprême. Quatre implications pour nous. Si nous croyons réellement que Dieu est digne qu'on répande sa gloire sur la terre, qu'on l'adore, alors modelons-le par nos vies. Et là, je vais parler un peu à tous et m'attarder sur un aspect pour certains d'entre nous. On est tous appelés à modeler quelque chose de la vie chrétienne. Et ma question que je vous pose, c'est qu'est-ce que votre vie chrétienne est en train de dire par rapport à cette mission ? Qu'est-ce qui fait le centre de votre existence actuellement ? Est-ce que c'est vos loisirs ? Est-ce que c'est vos études ? Est-ce que c'est votre carrière ? Ou est-ce que vous cherchez sincèrement à vous donner pour Dieu, pour les autres ? Ou est-ce que vous cherchez simplement à participer à des choses qui vont vous faire plaisir ? Et vous allez venir participer à la mission de Dieu quand ça va vous enchanter, quand il n'y aura rien de mieux à faire dans votre agenda. Qu'est-ce qui est au centre de votre existence ? Est-ce que votre vie modèle que vous êtes réellement attaché à cette réalité suprême ? Et parce qu'on est une église avec des jeunes parents, des jeunes et moins jeunes parents, qu'est-ce que nous modelons pour nos enfants par rapport à cette réalité suprême ? Je crois qu'on veut tous que nos enfants croient et s'attachent à Christ. Est-ce qu'on est en train de modeler une vie qui montre qu'il est vraiment suprême, souverain, et qu'il est digne qu'on prenne des risques pour lui ? Une toute petite idée qui m'est traversée l'esprit cette semaine d'un conseil qu'on m'avait donné avant que j'aie des enfants. Si l'évangile, c'est vraiment important, qu'il y a vraiment le jugement qui arrive et un salut possible, est-ce que nos enfants nous voient présenter l'Évangile ? Est-ce que nous invitons, par exemple, des gens avec qui nous partageons des choses et nous leur présentons l'Évangile ? Pas parce qu'on veut impressionner nos enfants, mais parce que c'est vraiment une priorité, qu'on croit réellement qu'il y a un règne suprême de celui qui est assis sur le trône et l'histoire suprême qui est déroulée par l'agneau pour le salut de l'humanité. Quelle vie chrétienne êtes-vous en train de modeler autour de vous, et particulièrement les parents, pour vos enfants ? Si nous croyons réellement que Dieu est digne qu'on répande sa gloire sur la terre, comment va-t-il se refléter dans nos finances, individuellement mais aussi en tant qu'Église ? Qu'on l'en veuille ou non, notre budget reflète nos vraies priorités et nos préoccupations. Et c'est pareil pour le budget de l'Église. Et ma prière, c'est qu'à la fin de ce week-end, nous soyons tellement convaincus de la priorité de la mission que ça va se voir et qu'on ne restera plus juste à définir quelques détails. Le pourcentage du budget de l'Église qu'on veut consacrer à la mission. La manière dont on veut soutenir un projet, soit par des dons réguliers, soit par un don ponctuel. les missions qu'on voudra soutenir dans notre famille d'église ou ailleurs. Tout cela va être juste une pensée qui va découler de cette vision plus large que nous croyons que ça vaut le coup que la gloire de Dieu soit connue à travers le monde. Si nous croyons en cette réalité suprême, nous donnerons. Si nous croyons en cette réalité suprême, alors nous allons prier. Prier dans la confiance, puisque Dieu, il est souverain, on l'a vu, sur le salut. Observez les réponses à nos prières quand nous allons partager l'évangile. Je me rappelle d'avoir pris l'habitude, quand j'étais à l'université, de prier le matin pour avoir des opportunités de pouvoir présenter cette bonne nouvelle. Et un matin, j'avais oublié. Et puis, il est midi et je suis à la cafétéria de l'université. Et puis, je me mets à prier une rapide prière. « Seigneur, qu'il soit possible aujourd'hui de partager l'évangile avec quelqu'un. » Et là, il y a un de mes collègues qui arrive et qui pose son plateau. Il fait « Pouf !» Eh bien, Myriam et moi, on a discuté et on avait une question à te poser. Vous, les protestants, est-ce que vous croyez en la Vierge Marie? On y va? Si nous croyons en cette réalité suprême, nous irons. J'avais mis « nous allons aller ». Je ne veux pas empiéter maintenant sur le terrain de Thierry qui va nous en dire plus, mais il est clair que nous allons saisir des opportunités de dire l'Évangile si uniquement nous chérissons réellement l'Évangile. Si Dieu et son Évangile sont juste une arrière-pensée, une activité religieuse, nous n'allons même pas penser à ouvrir notre bouche. Dire l'Évangile, oui, c'est difficile, ça va nous coûter, on souffre, mais soyons confiants, nous suivons l'agneau qui a été immolé et qui est entré dans la gloire. Il nous a rachetés par la souffrance de la croix. Et donc, souffrir fait partie du package chrétien. Certes, nous ne cherchons pas volontairement la souffrance, mais elle fait partie du package du salut. Pour Jésus, soyons prêts à prendre des risques dans nos relations. Modeler, donner, prier et aller, voici ce qui devrait produire en nous cette vision, cette adoration. Sans adoration, j'en suis convaincu, on peut parler autant de missions qu'on veut à l'EGE ce week-end. Si l'adoration n'est pas ce qui nous captive, ce qui nous motive, alors je vous fais une prédiction. Dans quelques années, dans quelques temps, la mission à l'EGE, ce sera juste un sous-comité, des cartes et des portraits de personnes qui n'ont pas ou peu d'intérêt pour nous. La réalité suprême, le règne suprême, l'histoire suprême, l'adoration et le but et la motivation de la mission. Je prie pour finir. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous précèdes dans tout ce qui se passe dans l'univers. On est interpellé par cette vision glorieuse de ton règne et de la réalité sous-jacente que tout dans l'univers est amené tôt ou tard à plier le genou devant toi et à t'adorer, à se prosterner, à enlever notre couronne de notre tête et à le jeter sous ton trône qui est tellement plus beau, plus merveilleux que tout ce qu'il y a sur cette terre. Et je prie que ce soit cette réalité suprême, ultime, qui soit le drive, la motivation et le but final de la mission de notre Église. Et je prie, Seigneur, qu'on ait la conviction, tous ici, que peu importe les sacrifices que nous allons faire, peu importe comment tu vas conduire les choses pour chacun d'entre nous et pour l'Église Grenoble-Est. Ma prière, c'est que lorsque nous nous retrouverons devant ce trône à t'adorer et à te regarder face à face, aucun de nous ne dira « Je l'ai regretté ». Je prie, Seigneur, qu'on ait cette conviction imprimée dans notre cœur. Amen.